Et ça fait partie plutôt de ce qui est privé, et donc surtout qui n'apparaissent pas sur la scène politique, sur la scène législative, etc. Voilà, ça ce serait de l'ordre du privé. Donc voilà, là, vous avez pris une feuille de route
Merci.
sur
Non,
la
ici, ici.
page. Non, non, elles sont là, je
Ah.
vous ai mis. Donc, Église-État, avec aujourd'hui ben, cette question, hein, la sécularisation d'un côté, dont on semble, certains en tout cas semblent souffrir, et de l'autre côté, l'opposé de la sécularisation, qui est l'islamisation, et qu'on semble aussi ne pas désirer. Alors, qu'est-ce qu'on veut finalement? Sécularisation des mentalités, sécularisation des biens. Vous savez que donc il y a des églises qui sont désacralisées, qui deviennent autre chose que des églises, etc. Sécularisation des droits, suppression des privilèges de l'église, des privilèges de ce qui est des associations religieuses, une justice civile pour tous. Alors c'est une législation évidemment, mais ce qui apparaît un peu comme une morale au niveau de l'avortement, du mariage, de l'euthanasie, etc. Une législation pour tous qui paraît, aux yeux de certains, comme étant la morale pour tous, quoi, hein? Alors que entre la législation et la morale, il y a encore une marge, évidemment, mais que beaucoup ne font pas. Suppression des privilèges, justice civile pour tous, par exemple pour les abus sexuels qui auraient lieu dans l'Église, eh bien, on passe à la justice civile, bien sûr, avec des dédommagements éventuels qui ruinent des diocèses et tout. Bon, donc là, on se pose des questions. Alors que du côté de l'islam, justement, il n'y a pas de distinction entre le civil et le religieux, avec la tendance à imposer la loi religieuse comme une loi civile pour tous, la charia. Et donc, un peu, comment comprendre un peu ces deux tendances qui sont contraires et qui coexistent, hein, dans l'actualité? Eh bien, je crois que pour comprendre notre situation, pour comprendre aussi la situation des autres, un peu d'histoire, eh bien, comme d'habitude, nous permet de voir comment on en est arrivé là. Saint Augustin, par exemple, qui a écrit un livre qui s'appelle La Cité de Dieu, il l'a écrit après la chute de Rome, la chute de l'Empire romain d'Occident, en 410, explique qu'en fait, il y a la Cité de Dieu, mais il y a aussi la Cité des hommes, la Cité terrestre. Il y a deux cités. Il y a deux cités, mais ces deux cités sont mélangées sur terre. Bon, il y a le périmètre de l'Église, peut-être, le périmètre de l'État, peut-être, mais c'est mélangé. Mais il y a des citoyens qui sont chrétiens, hein, il y a des citoyens qui ne sont pas chrétiens, mais il y a peut-être des citoyens qui sont païens, mais qui en fait appartiennent plus à l'Église que certains citoyens chrétiens qui se croient chrétiens, mais qui ne le sont pas, etc. En tout cas, disons, sur cette terre, selon saint Augustin, ces deux cités, la cité terrestre et la cité de Dieu, sont mélangées. Elles ne seront distinctes qu'après le jugement dernier au ciel. Dans l'eschatologie, on verra qui appartenait vraiment à Dieu et qui appartenait vraiment, simplement, au règne terrestre. Et saint Ignace de Loyola lui-même utilise cette idée des deux cités. Dans deux de ses méditations, les exercices spirituels, il nous fait méditer le règne. On médite comment un roi terrestre, hein, se propose des grands projets, etc. Et que normalement, ben, si on a un peu d'idéal dans la vie, ben, on doit suivre ce roi terrestre. Alors, a fortiori, s'il apparaît un roi qui, sur terre, propose un règne qui n'est pas terrestre, mais qui est, hein, de l'ordre du royaume de Dieu. Et c'est la méditation des deux étendards. Les deux étendards. Il y a l'étendard du Christ et l'étendard de Satan. Jérusalem et Babylone. Donc voilà, saint Ignace lui-même reprend un peu cette idée des deux cités en disant, mais voilà, il faut prendre conscience d'abord de l'existence de ces deux cités, de leur mélange. Et puisque c'est mélangé, ben, il faut discerner à laquelle on veut appartenir dès ici-bas. Voilà. Alors, en sept points, avant Jésus-Christ, les trois premiers siècles chrétiens, l'Église constantinienne, les États pontificaux, le grand schisme d'Orient, le grand schisme d'Occident et le temps de la Réforme, je vais un peu parcourir à grandes enjambées l'histoire de l'Église, mais aussi l'histoire des rapports de l'Église avec les empires et les nations, pour voir comment c'est distribué dans les mentalités, mais aussi dans la pratique, eh bien, ce rapport entre le terrestre, le profane, et le spirituel, le religieux. Le civil, le profane, le terrestre, et le religieux, le spirituel. Comment est-ce que ça se rapporte l'un à l'autre? Nous sommes des êtres humains, avec un corps et une âme. Ben, le corps appartient à la cité terrestre, et l'âme appartient à la cité céleste. Mais attention, ce n'est pas aussi facile que ça, parce que le corps appartient aussi à la cité céleste, et l'âme appartient aussi à la cité terrestre. Il faut s'unifier. C'est ça l'important. Alors, je commence même avant Jésus-Christ, au sens où la religion des Hébreux, la religion des Juifs, eh bien, nous montre déjà un modèle de rapport entre le religieux, le sacré, et le profane. De quelle manière? Après l'Exode hors de l'Égypte, les 40 ans au désert, le peuple hébreu, distingué en 12 tribus, s'installe en terre promise. Le roi David, vous avez pris une feuille de route là sur la chaise pour pouvoir suivre. Le roi David fonde Jérusalem en l'an 1000 et son fils Salomon y construit un temple. Un temple, le premier temple de Salomon, qui est justement le symbole de l'idéal religieux du peuple juif. Le peuple hébreu, le peuple juif. Ce temple, le peuple en est très fier, mais voilà que de grands empires entourent cette terre promise. Il y a l'Égypte, il y a la Syrie, il y a Babylone, il y a la Grèce. Enfin bon, il y a de grands empires qui veulent évidemment dominer les petits royaumes qui sont autour d'eux. Et ça commence par les Assyriens, qui menace Jérusalem en 701, qui essaie de contrôler le royaume du nord, et puis le royaume du sud, le royaume de Juda. Et puis ce sont les Babyloniens, un peu plus tard, un siècle plus tard, qui prennent Jérusalem en 597 et qui détruisent le temple de Salomon. Ils le détruisent en signe de domination de l'empire babylonien ou de la religion babylonienne même supérieure à la religion des Juifs. Après Babylone, il y a les Assyriens, il y a les Babyloniens, ensuite les Perses. Les Perses qui aussi conquièrent ce territoire. Mais Cyrus est un conquérant perse qui a une toute autre mentalité. Et tous ceux qui ont été déportés en Babylonie, Cyrus décrète qu'ils peuvent rentrer dans leur pays et aller adorer leur dieu et reconstruire le temple, éventuellement le temple de Jérusalem. Donc en effet, des exilés partent de Babylonie et reviennent en terre promise. C'est toute une aventure que raconte surtout le prophète Isaïe, et ils reconstruisent un temple qui est justement le second temple, parce que le premier a été détruit par Nabuchodonosor. Donc, on voit là déjà un rapport entre le religieux et le civil. Lorsque le Christ vient, lorsque la religion chrétienne commence à prendre de l'essor, l'Empire romain surtout, l'Empire romain qui a deux parties, la partie occidentale avec Rome, la partie orientale, mais qui se développera plus tard, avec Constantinople, mais au début... Bon, c'est un seul empire. Et alors, c'est très curieux, mais les trois premiers siècles chrétiens sont des siècles de persécution vis-à-vis des chrétiens. Non pas tous les empereurs, mais beaucoup d'empereurs persécutent les chrétiens. Il y a certainement 10 persécutions qu'on peut repérer de manière tout à fait historique et claire, des empereurs donc qui ont persécuté les chrétiens. Et à chacune de ces 10 persécutions, on peut identifier, nommer toute une série de martyrs. Ça commence avec Néron, en 74, et la mort de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Et puis c'est Domitien, et puis c'est Trajan, puis c'est Marc Aurèle, grand philosophe stoïcien important. Septime Sévère, Maximin le Thrace, Dès, Valérien, Aurélien, Dioclétien. Madame Monique Fauquet vous en a parlé. 10 persécutions, certainement, hein, très sérieuses, qui se succèdent à un rythme assez rapide, avec chaque fois des martyrs. Et donc, dans ce contexte-là, bien certainement que la religion chrétienne est en opposition avec l'Empire romain. Pourquoi ? Parce que l'Empire romain a une religion. Mais c'est une religion qu'on pourrait appeler une religion civile. Pourquoi ? C'est une religion qui se base un peu sur la mythologie, bien sûr, mais les intellectuels romains ne croient plus beaucoup à cette mythologie. Mais ils prisent quand même cette religion parce qu'elle est un ciment social, très important. C'est une cohésion sociale autour de l'empereur qui est plus ou moins divinisé. Alors je crois qu'il ne se faut quand même pas d'illusions sur la divinisation de leur empereur, mais c'est un hommage qu'on doit rendre et qu'on ne peut pas ne pas rendre. C'est lui le maître, c'est lui le kurios. Et ce mot kurios est très important. Quand les chrétiens disent « car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire », eh bien, il lance un défi à l'empereur romain. Parce qu'il est clair que pour un citoyen romain, l'honneur, la puissance et la gloire appartiennent à l'empereur. Et il y a régulièrement donc des manifestations de cette religion où tout citoyen qui veut être honnête, qui veut être fidèle, loyal, eh bien, doit manifester son allégeance à cette religion et donc ce respect à l'empereur. Notamment, par exemple, en 248, eh bien, c'est le millénaire de l'Empire romain, et on demande à tous les citoyens de venir faire un acte de vénération, d'offrande. Il suffit d'offrir un grain d'encens dans un temple païen pour dire, voilà, j'adhère à la religion civile romaine, et si vous ne voulez pas le faire, ben, ça veut dire que vous n'êtes pas un citoyen loyal. Et les chrétiens ne voulaient pas le faire, parce qu'ils ne voulaient pas adorer un être humain, une idole. Et donc voilà, c'était un des motifs pour lesquels ils étaient persécutés. Le livre de l'Apocalypse, que parfois on trouve tellement bizarre, en fait c'est un langage codé. C'est un langage codé qui nous parle de cette rivalité entre le civil et le politique, le civil, le politique et le religieux. Et qui nous dit, dans des visions un peu étranges, eh bien que Jean de Patmos voit la victoire des chrétiens contre les Romains païens, la victoire du religieux sur le civil. Mais très curieux, après cette série quand même de persécutions qui sont très bien documentées historiquement, qui sont tout à fait indéniables, eh bien il y a un empereur, évidemment il n'est pas le seul, mais il y a tout un milieu d'intellectuels quand même de philosophes, etc., de magistrats et tout, romains qui sont frappés par la force de cette religion, non seulement parce qu'il y a une doctrine, une philosophie, si on veut, mais il y a aussi l'exemple des martyrs, il y a la personne de Jésus, et donc, voilà, l'empereur Constantin finit par se convertir au christianisme. Et en 313, par l'édit de Milan, il déclare que la religion chrétienne est une religion licite. Avant, elle n'était pas licite. En fait, dans l'Empire romain, les religions n'étaient pas admises, sauf l'une ou l'autre, qui avait une grande antiquité, comme la religion juive, par exemple. La religion juive du temps du Christ était une religion licite, religio licita. Mais il ne s'agissait quand même pas de se révolter contre l'empereur. Parce que, par exemple, en l'an 70, il y a eu la guerre des juifs contre les romains, l'expulsaient. Les Romains, eh bien Titus n'a pas hésité à raser le temple en l'an 70 parce que, quoique religion licite, le judaïsme ne pouvait quand même pas s'opposer à l'Empire. Il fallait être loyal, même si on professait sa propre religion. Par l'édit de Milan, donc, on dit que la religion chrétienne est licite. Mais alors, c'est absolument incroyable, quelques années plus tard, l'empereur Théodose fait un pas de plus et un pas important en 380, c'est pas tellement plus tard, et dit que le christianisme est la seule vraie religion et quelle est la religion de l'Empire, par l'édit de Thessalonique en 380. L'édit de Thessalonique finit par imposer la religion chrétienne comme religion d'État. Alors, c'est la question, hein. Est-ce qu'il y a une religion d'État? Est-ce que la religion est une chose à la discrétion de chacun? Bien sûr, aujourd'hui, dans notre mentalité, nous pensons ça, mais autrefois, ce n'était pas du tout comme ça. Hein. Vous savez que même dans les Actes des Apôtres, etc., quelqu'un qui se convertit, ben, toute sa maisonnée est baptisée. Ben oui, je dirais les personnages importants réfléchissent et se convertissent éventuellement, etc., Et puis, évidemment, tout le milieu autour d'eux font de même, parce que, et sans résistance, parce qu'on appartient à la famille, parce que, etc. Donc, 380, absolument incroyable, alors qu'un siècle avant, il y avait encore des persécutions, ça devient la religion qu'on impose. Qu'on impose. Et donc, les autres religions sont persécutées. Et Mme Monique Fauquet vous a dit aussi hein, que c'était un peu le paradoxe, hein, que... Voilà, il y a parfois des persécutions qui se renversent. Est-ce que c'est une chance pour le christianisme? Ben bien sûr, c'est une chance, parce que l'Empire romain est extrêmement étendu à une administration, etc. Donc, les missionnaires, bon, ben, ils prennent les routes, ils sont légitimés partout où ils sont. Donc, voilà, c'est une chance extraordinaire pour l'extension du christianisme. Mais aujourd'hui, eh bien, on en revient un petit peu de cette idée et on se dit, oui, mais est-ce que la religion n'a pas perdu à ce moment-là de sa profondeur hein, spirituelle? Est-ce que ce n'est pas devenu, ben voilà, quelque chose de plus civil, de plus normal, de moins approfondi, puisqu'il n'y a pas de danger, au contraire, on est plus ou moins obligé? Est-ce que l'Église constantinienne a été un essor hein, de l'Église, ou au contraire, une trahison, hein, quelque chose qui... une compromission, en tout cas, voilà. Question qu'on peut se poser aujourd'hui. Alors bon, l'histoire est ce qu'elle est, hein, donc on constate simplement que c'est comme ça, et de fait, ça a été un vecteur du christianisme extrêmement important. En 2000 ans, hein, ben, on est passé de 12 apôtres à 2,4 milliards chrétiens. Dans le monde, bon, ben, c'est évident que ça a été un vecteur extraordinaire, parmi lesquels 1,3 milliard de catholiques. Voilà. En 410, chute de Rome. Alors nous avons ici un spécialiste de Saint-Augustin et de la Cité de Dieu, hein, Pierre Piret, qui pourrait... Moi j'ai appris beaucoup avec lui. Voilà, donc cette date de 410 est importante. Les barbares, comme on dit... Eh bien, font tomber l'Empire romain d'Occident en envahissant Rome. Alors les barbares, c'est qui? Ben, ce sont des peuples nouveaux, des peuples remuants, des peuples dynamiques, des peuples qui circulent. Ben, au fond, voilà, ben, c'est entre autres aussi nous, hein, les Gaulois, c'est les Belges de l'époque, etc. Bon, ben, ce sont des peuples qui sont là, et qui ne sont peut-être pas très civilisés, c'est vrai, mais qui ont toute une dynamique. Il y a aussi de l'art, il y a aussi de la politique, il y a aussi une puissance. Et voilà, bon, ils viennent secouer Rome très sérieusement, mais ils l'enrichissent aussi d'une certaine manière. Hein. Ils l'enrichissent avec un sang nouveau. Mais Rome comme telle, du côté occidental, tombe. Mais l'Empire romain, c'était beaucoup plus large que ça. Alors finalement, on peut dire que l'Empire romain d'Occident... Ben oui, disparaît comme organisation politique, comme structure, mais l'Empire romain d'Orient continue à s'appeler l'Empire romain. Eh bien, surtout autour de Constantinople, qui est une ville qui a été fondée par Constantin, et Constantin voulait que Constantinople soit une ville seconde Rome, entièrement chrétienne, pas du tout païenne. Païenne, bon, comme Rome, hein, comme la première Rome. Eh bien, Constantin voulait que Constantinople, ville qu'il fondait, soit entièrement chrétienne. Et en effet, l'Empire romain, c'est bien romain, hein, mais d'Orient, avec Constantinople comme capitale, eh bien, a subsisté jusqu'en 1453. Moment où les Turcs musulmans, eh bien, l'ont fait tomber. Mais entre 410 et 1453, il y a 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans pendant lesquels, eh bien, l'Occident a eu un destin et l'Orient un autre. Et notamment, ben, le christianisme en Orient et en Occident ont eu des destins différents, vu qu'ils étaient dans une structure politique différente. C'est à partir de ce moment-là que l'évêque de Rome, puisqu'il n'y a plus d'empereur, ben, se prend un peu des allures d'empereur romain. Il est à Rome, et puis il organise un peu les choses, il y a des problèmes, il intervient, il va discuter avec Jean Séric, qui pille Rome, puis il supplie pour qu'on ne passe pas tout le monde au fil de l'épée, etc. Il réussit, donc voilà, il prend une certaine ampleur politique. Il s'attribue aussi certains attributs des empereurs romains. Il devient le pontifex, hein, c'était un titre d'un empereur, etc. Bon, c'est à partir de ce moment-là que l'évêque de Rome, ben voilà, prend un peu des allures d'empereur romain. Chance énorme donc pour l'Occident. Et en 494, nous avons une lettre du pape Gélase, qui est d'origine africaine. Ce n'est pas l'Afrique noire, bien sûr, mais c'est l'Afrique du Nord. Lettre du pape Gélase à l'empereur romain d'Orient, Anastase. À ce moment-là, Rome faisait partie, je ne sais plus par quel lien, hein, mais faisait partie de l'Empire romain d'Orient. Et donc, l'évêque de Rome, Gélase, le pape, était un sujet, hein, de l'Empire, de l'empereur Anastase Ier. Et il lui envoie une lettre qui est très célèbre et qui est la première lettre vraiment théorique, si on veut, où un pape, eh bien, explique le partage des pouvoirs. Il y a le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. C'est une lettre qui n'est pas très longue. Voilà, ici ça fait cette page-ci, quoi, hein, ce cadre. Et il explique, voilà, il explique à son empereur, hein, auquel il doit obéissance, il y a deux principes par lesquels ce monde est régi, principalement l'autorité sacrée des pontifes et le pouvoir royal. Il y a deux autorités. Deux principes. Ta dignité, bien sûr, te place au-dessus du genre humain. Cependant, toi aussi, tu inclines la tête par un devoir religieux devant ceux qui sont chargés des choses divines. Donc, toi, tu es au-dessus du genre humain et tu gères le genre humain, d'accord ? Mais tu dois incliner la tête devant, eh bien, devant le pape et devant les prêtres qui sont chargés des choses divines. Et en tout cela, tu dépends de leur jugement, tu ne dois pas vouloir les réduire à ta volonté pour les choses spirituelles. Alors bien sûr, s'il s'agit, alors c'est très explicite et c'est fort intéressant, si en effet pour ce qui concerne les règles de l'ordre public, eh bien on en reparlera dans le concordat de Napoléon justement, hein, l'ordre public. Si pour ce qui concerne les règles de l'ordre public, les chefs religieux admettent que l'Empire t'a été donné pour l'ordre public et qu'ils obéissent eux-mêmes à tes lois, cependant, hein, pour ce qui est de l'ordre spirituel, eh bien, il s'agit de se soumettre à tous les prêtres qui s'acquittent convenablement de leurs fonctions, etc. Personne ne peut s'élever au-dessus de la situation privilégiée de celui que la voix du Christ a placé au-dessus de nous, hein, c'est-à-dire le pape. Personne ne peut s'élever au-dessus de lui. Aucune puissance ne saurait lui être comparée. Mais pour ce qui est de l'ordre public, bien sûr, les prêtres eux-mêmes te doivent obéissance, doivent obéir à tes lois. Mais pour ce qui est du pouvoir spirituel, eh bien non, il n'y a personne au-dessus du pape et des prêtres. En fait, cette thèse, cette lettre gélasienne, présente trois traits principaux qui sont très clairs. L'accent est mis sur la distinction entre l'Église et l'État, mais distinction, non pas séparation. Non pas séparation. Dans la structure même des choses, il y a une distinction qui n'est pas une séparation. Les deux sont liés, il y a une corrélation. Le pouvoir de l'Église est très clairement spirituel, il n'est pas temporel, c'est fort important, vous allez voir par la suite, hein, que ce n'est pas toujours ce que les papes diront, hein. Le pouvoir de l'Église est strictement spirituel. Et troisièmement, il y a une harmonie qui doit découler de ce partage à des pouvoirs. Une harmonie, une concordance qui doit en découler. Cette lettre du pape Gélas, qui est une lettre très ancienne, puisque c'est 494, hein, eh bien, Léon XIII l'a reprise vers 1900, hein, sur la question des deux cités parfaites et tout ça, peu importe. Et un théologien politique américain, le jésuite John Courtney Muir, qui était un expert au Concile Vatican II, a dit que cette lettre était encore la base, hein, la base de réflexion pour aujourd'hui. Et que Léon XIII avait très bien fait de la ressusciter, si on veut, hein, passant au-dessus d'autres lettres qui sont moins exactes selon lui. C'est le pape Gélas qui a formulé assez bien les choses à cette époque. Bon, vous voyez qu'il y a une prétention, bien sûr, dans cette lettre, mais il y a aussi un équilibre, hein. Distinction sans séparation, pouvoir purement spirituel de l'Église et harmonie qui doit en découler. Constitution des États pontificaux. Alors, les États pontificaux, c'est quand même une grande partie de l'Italie. Vous avez une carte, on pourrait vous montrer, hein, mais ça s'étend quand même d'une mer à l'autre de l'Italie. Hein. Il y a toute une bande là, de territoires assez grands qui ont fait partie des États pontificaux. Pendant combien de temps? Eh bien, pendant plus de 1000 ans. Les États pontificaux ont existé pendant plus de 1000 ans. Aujourd'hui, le pape a encore des États. Plutôt un État, hein, c'est l'État du Vatican, qui est tout petit, tout minuscule, hein, qui, je crois, est pourtant très important, même au niveau territorial, qu'il soit un État avec une terre. Mais ces États pontificaux ont été évidemment beaucoup plus grands depuis 756 jusqu'en 1870, Concile de Vatican I. Et alors, il y avait toute la question de la formation de l'Italie, les Sorrentino, etc. Bon, histoire assez compliquée, mais comment ces États se sont-ils constitués? C'est ça qui est intéressant. Eh bien, vers le milieu du 8e siècle, Rome dépendait alors de l'exarque de Ravenne. Ravenne, qui gouverne au nom de l'Empire romain d'Orient. Le pape était donc un sujet au niveau terrestre, hein, de l'exarque de Ravenne, qui lui-même était là au nom de l'Empire romain d'Orient. Mais les Lombards harcelaient à ce moment-là l'Empire byzantin, et c'est ce qui mène finalement, hein, pour défendre l'évêque de Rome qui dépendait de quelqu'un qui était harcelé par, etc., qu'on crée l'État de l'Église. Et qui est-ce qui a aidé à fonder ces États pontificaux? Ben, c'est quelqu'un qui est né pas très loin d'ici, hein. C'était Pépin le Bref. Pépin le Bref. Alors, je ne sais plus si c'est lui le fils de Pépin de Herstal, mais Herstal, c'est pas très loin. En tout cas, c'est dans la généalogie, hein. Pépin le Bref, Pépin le Herstal, Charlemagne, etc. Bon, ben voilà. Et donc, c'est Charlemagne, en 774, qui, par une victoire sur les Lombards, qui embêtait le pape, hein, par une victoire sur les Lombards, eh bien, a fortifié cette création des États pontificaux qui avaient déjà été fondés en 756. En 774, ils sont vraiment établis. Et plus ou moins dans la foulée, évidemment, le pape qui était harcelé à Rome se réfugie à Paderborn auprès de Charlemagne, qui, en retour, ben, lui demande... pourquoi pas, hein, d'être couronné empereur à la Noël de l'an 800 à Rome. Et voilà, nous avons donc Charlemagne couronné par l'empereur, par le pape, pardon, hein, Charlemagne couronné empereur par le pape, après un demi-siècle donc de tergiversation, hein, où les Lombards, qui étaient très puissants à cette époque-là, eh bien, je dirais, embêtaient le pape dans ses mouvements. Et voilà, Pépin le Bref, Charlemagne, vient à son secours et lui donne une terre. Notamment, c'est dans l'idée de construire, bien sûr, une nouvelle géographie politique là-bas. Mais alors, je ne sais pas si vous savez, cette création des États pontificaux s'appuie sur un document très précieux qu'on a montré très souvent, hein. C'est la donation de Constantin. En effet, le pape avait le droit d'avoir ses terres parce que Constantin les lui avait données. Constantin avait signé un papier, regardez, hein. Voilà, Constantin m'a donné ceci, cela, ceci, cela. Bon, il a été prouvé par la suite que c'était un faux qu'on avait fabriqué pour justifier le fait que, etc. Bon, ça s'est passé plus d'une fois, hein, les fake news, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Voilà, donc la donation de Constantin est un document qui était là à l'appui de cette création des États pontificaux. États pontificaux qui, donc, je vous le disais, ont duré plus de 1000 ans. Alors, par parenthèse, Charlemagne s'est fait couronner empereur en l'an 800. Qui est-ce qui s'est fait couronner empereur presque 1000 ans plus tard ? Napoléon lui-même, hein, par l'empereur, à Rome aussi, hein, le 2 décembre 1804. Il a voulu être sacré par l'empereur, par le pape, empereur, alors qu'il lui avait fait un concordat tout à fait léonin, dont vous parlera prochainement Bernard Jassard. Mais voilà, hein, c'était la manière dont on agissait. Il voulait avoir l'aval de l'autorité spirituelle la plus haute de l'époque. Le grand schisme d'Orient. Donc c'est la séparation entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. D'une certaine manière, l'Empire romain d'Occident et d'Orient était déjà séparé depuis longtemps. Maintenant, ce sont les Églises qui se séparent. En 1054, les deux églises se séparent, et bon, d'un côté les orthodoxes, comme on dit, et de l'autre côté les catholiques. Autrefois, ils étaient tous orthodoxes et catholiques, hein. Mais voilà, ils ont pris donc ces dénominations pour se distinguer les uns des autres. Et c'est un moment dont j'ai déjà parlé à propos des diaconesses, hein, un moment très important, je crois, dans l'histoire de l'Église, parce que à partir de ce moment-là, l'Occident s'organise sans le vis-à-vis de l'Orient. Et il s'organise donc à sa manière, de manière beaucoup plus rationaliste, manière beaucoup plus juridique, etc., sans le contrepoint plus symbolique, plus mystique, etc., plus traditionnel de l'Orient. Et c'est ainsi que l'organisation de l'Église romaine s'appuie sur des faits très importants, comme la création du droit canonique, dans le fameux décret de Gratien, l'imposition de la loi du célibat, l'élimination donc du double clergé, la disparition du diaconat féminin, l'imposition du cursus honorum, donc un training bien établi pour former les prêtres, l'apparition des grandes sommes théologiques, l'accent mis sur l'Eucharistie et donc sur le sacerdoce. Voilà toute une série de mesures, hein, qui donnent à l'Église d'Occident, voilà, une allure bien précise. Comme vous savez, l'initiateur de cette réforme grégorienne, c'est Grégoire VII, Hildebrandt, qui est inspiré, entre autres, par Pierre Damien. Voilà, la réforme grégorienne donc, donne une figure très, très précise à l'Église d'Occident. Alors, je crois qu'il y a un autre point aussi qui est important du côté de l'Occident. C'est qu'à cette époque, les nations commencent à émerger avec une figure bien propre, des autorités civiles de plus en plus précises, de plus en plus organisées, etc., les nations qui se veulent indépendantes de l'Église, qui ne se veulent pas séparées de l'Église, hein, mais qui acquièrent une personnalité et qui veulent, comme Charlemagne, être un vrai vis-à-vis de l'Église. Et de plus en plus, eh bien dans d'autres régions de l'Europe, ces nations se constituent. Et il y a une certaine rivalité entre l'Église et les États naissants. Cette rivalité, bon, ben, je dirais, les nations, les rois s'appuient sur un pouvoir plus terrestre, avec une armée, avec des possessions, avec des richesses, avec des terres, etc. L'Église, elle, bon, n'a pas autant de richesses matérielles peut-être, même si elle en a, mais elle veut donc s'appuyer sur une hiérarchie, une autorité virile, efficace, bien claire, Et je crois que ça marque aussi un petit peu cet essor d'une cléricalisation de l'Église, hein, avec une hiérarchie bien, bien nette. Alors pour la question des possessions de l'Église, ben vous savez, je vous ai parlé des États pontificaux. Au moment de la Révolution française, le territoire français était pour propriété des seigneurs, etc., mais aussi était propriété des abbayes, hein, était propriété de l'Église. 10% des terres françaises appartenaient à l'Église au moment de la Révolution française. C'est énorme, évidemment, hein, et bien sûr, tout cela sera nationalisé, si j'ose dire, donc il y aura là tout un jeu très important de récupération ensuite, etc., des biens d'Église. Vers 1075, il y a les mystérieux Dictatus Papae. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des documents qu'on a découverts dans les archives de Grégoire VII, qui n'ont jamais fait l'objet d'aucune promulgation. Mais ce sont des 27 propositions que l'on attribue au pape Grégoire VII, qui n'ont fait l'objet d'aucune promulgation, comme je vous l'ai dit, et qui disent par exemple ceci. Seul l'évêque de Rome mérite d'être appelé universel. Lui seul peut déposer ou absoudre les évêques. Soit. Son légat dans un concile commande à tous les évêques, même s'il est de rang inférieur, et seul il peut prononcer une sentence de déposition. Seul il peut porter les insignes impériaux. Le pape est le seul dont tous les princes baisent les pieds. Il peut déposer les empereurs. Vous voyez que sa sentence ne peut être réformée par personne, et seul il peut réformer toutes celles des autres. Voilà. Donc il y a une affirmation d'un pouvoir pas seulement spirituel, mais temporel aussi, hein, du côté de l'Église. Mais attention, hein, c'était face à des rois qui voulaient aussi nommer les évêques, hein, qui voulaient aussi prendre les biens d'Église. Donc il y avait un espèce de bras de fer, hein, qui s'opérait. En 1302, vous avez la bulle Unam Sanctam de Boniface VIII, qui était en querelle avec Philippe IV de France, à propos, justement, du droit du roi sur les biens temporels du clergé. Est-ce que les biens du clergé appartiennent seulement à l'Église ou bien au roi, mis à la disposition par le roi, hein, pour les prêtres ou pour les églises, etc., ou bien est-ce qu'ils appartiennent vraiment à l'Église? Dans ce cadre, eh bien, la bulle réclame pour le pape un pouvoir illimité et direct à l'égard des rois, y compris en matière temporelle. Nous sommes en 1302, hein, et donc là il y a une affirmation extrêmement, mégalomane, hein, de la part du pape, et qui exprime la fameuse théorie des deux glaives. La fameuse théorie des deux glaives. C'est quoi les deux glaives? Mais ce sont les deux autorités. Mais maintenant, on les symbolise par le glaive. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus agressif, hein, de beaucoup plus tranchant, justement. Les deux glaives sont tous deux au pouvoir de l'Église. Le glaive spirituel et le glaive matériel. Cependant, l'un doit être manié pour l'Église et l'autre par l'Église. Alors, le glaive spirituel est manié par l'Église et le glaive temporel est manié par le roi et par le soldat, mais pour l'Église. Ça, c'est clair, hein? Donc, il faut toujours que ça revienne, au profit de l'Église. L'un est manié par la main du prêtre, l'autre par la main du soldat et du roi, mais au consentement et au gré du prêtre. Il convient que le glaive soit sous le glaive, c'est-à-dire que l'autorité temporelle soit soumise au pouvoir spirituel. Il appartient au pouvoir spirituel d'établir le pouvoir temporel, terrestre. Si donc le pouvoir terrestre dévie, il sera jugé par le pouvoir spirituel. Il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain. Voilà, alors très grosse affirmation en 302, en 1302, hein, très grosse affirmation, et 4 ans plus tard, petite déconvenue, le pape part en exil à Avignon. Après avoir affirmé, hein, haut et fort qu'il était le seul, le vrai, etc., ben, on le chasse de Rome. Quoi, hein. il y a trop d'ennuis à Rome, et donc finalement il s'installe à Avignon. Clément V doit quitter Rome, s'installe en France, justement à cause, hein, on devine bien que ce genre de lettres, hein, de bulles, font pièce à des tentatives aussi de s'emparer de l'Église et de mettre à mal l'autorité du pape. Si bien que voilà, le pape, après avoir affirmé haut et fort qu'il est le seul chef, doit quand même s'en aller à Avignon, parce qu'il y a un autre chef qui lui dit « ça va pas ». Et là, les papes demeureront à peu près 70 ans. Mais tout se passe très bien à Avignon pendant 70 ans, jusqu'à une date qui devient difficile, c'est celle de 1378, avec le grand schisme d'Occident cette fois-ci. Ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident, eh bien, c'est précisément la division à l'intérieur même de l'Église catholique occidentale entre plusieurs papes. Plusieurs papes qui se disputent cette autorité spirituelle. Donc, on va avoir deux papes, on va même en avoir trois à un moment donné. Hein. Bon, est-ce que c'est grave ? Ben oui, bien sûr, c'est grave. Mais un schisme romain n'était pas inédit. 28 fois dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, on a connu des antipapes. Donc il y avait un pape et un autre pape à côté qui se prétendait plus légitime que le premier. Alors attention, hein, c'était des histoires qu'on ne comprend pas très bien, mais par exemple, il y a deux papes rivaux, Calixte et Hippolyte. L'un contestant l'autorité de l'autre, tous les deux élus papes en 217, et tous les deux chassés et persécutés dans la même mine de sel, je ne sais pas où, et finalement morts martyrs ensemble. Donc le pape et l'antipape, ils sont fêtés, je crois, le même jour, hein, ils sont fêtés le même jour dans le calendrier liturgique, ben, ils étaient opposés l'un à l'autre, mais il y a quelqu'un qui s'est opposé encore plus à tous les deux pour les envoyer aux martyrs. Mais 28 fois, moi je dois dire que quand j'ai appris ça, j'étais assez étonné, hein, l'histoire de l'Église a connu des antipapes, 28 fois. Cette fois-ci, on va en connaître de nouveau, mais ce sera la fin. Après le grand schisme d'Occident, il n'y aura plus jamais de pape. Sauf maintenant, pour d'autres raisons, plus jamais il y a eu de pape en concurrence. À cause de du renoncement de Benoît XVI. Alors, je vais vous commenter ce que j'ai mis sur la feuille de route derrière. Parce que je trouve que c'est un petit tableau. Bon, ben, c'est peut-être des détails, mais je trouve que c'est intéressant pour voir comment la solution a été trouvée. Parce que la solution est absolument géniale. Hein. L'absolution est géniale, mais elle a demandé un certain travail de la part de certaines personnes. Et lesquelles ? Donc, vous avez le verso, là. Dans la légitimité romaine, ça veut dire les papes qui sont dans la ligne droite, hein, de ceux qui étaient papes à Rome, évêques de Rome, vous avez les papes 202, 203, 204, 205, 206. Les numéros sont là. Hein. Donc, cela, c'est la légitimité romaine, même s'ils habitaient à Avignon. Mais c'est ce qu'on appelle la légitimité romaine. Hein. Donc voilà, dans cette légitimité, Urbain VI est nommé en avril 1378, vous voyez la date, hein, Urbain VI, le pape 202, est nommé, élu en 1378, et la même année, la légitimité avignonnaise, comme on dit, eh bien nomme Clément VII, en septembre 1378. Donc, à 3 mois d'intervalle, hein, il y a deux papes qui ont été élus. L'un dans ce qu'on appelle la légitimité romaine et l'autre dans la légitimité avignonnaise. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Comment ça s'est fait ? Eh bien, tout commence au dramatique conclave de avril 1378, ou des cardinaux, presque tous français. Ben oui, ils étaient à Avignon depuis un certain temps, hein, donc il y a beaucoup de cardinaux français, sont forcés pratiquement par la foule, par les gens autour d'eux, à élire un pape italien. Donc voilà, hein, le conclave, c'est quoi? C'est une réunion de cardinaux, hein, qui sont en charge de cette mission, d'élire le pape. Comme vous savez, le conclave, c'est pas du tout le concile, hein. Le conclave, c'est une réunion de cardinaux qui n'a qu'une seule mission, c'est l'élection du pape. Ils ont d'autres missions en temps ordinaire, mais là, voilà. Tandis que le concile, c'est une réunion d'évêques du monde entier, ou à peu près, quoi. Donc, voilà, les cardinaux français sont forcés, semble-t-il, hein, un peu contre leur gré, ils nomment un archevêque italien, Bartolomeo Prignano, qui devient évêque de Rome, oui, Urbain VI. D'accord, mais cet archevêque se montre très rapidement assez autoritaire, assez provocateur par rapport à toutes sortes de choses. Bon, et les cardinaux se disent, mais en fait, il est fou, quoi. On a élu quelqu'un, mais on doute de sa santé mentale. Bon, ben, bien sûr qu'un pape fou, on ne peut pas avoir un pape fou, donc ben, on le dépose et on va nommer un qui est saint d'esprit. Ben, il n'était pas du tout fou, il était peut-être un peu spécial, et surtout il ne plaisait pas aux Français, ça c'est clair. Hein. Et donc le même collège, ah oui, ça c'est à l'église gallicane, hein, la fille aînée de l'église quand même, hein. Donc le même collège de cardinaux, les mêmes électeurs, décrètent que le pape est fou, parce qu'en fait il est un peu trop autoritaire ou trop colérique ou je ne sais pas quoi, ils le déposent, ils croient qu'ils ont ce pouvoir de le déposer, ils le déposent, et il nomme un autre, comme par hasard un Français. Voilà, ça c'est Clément VII. Alors nous sommes la même année avec deux papes. Alors les cardinaux disent, mais non, pour nous c'est très clair, le premier a été déposé, quoi. Mais l'autre ne l'entend pas de cette oreille, ni d'ailleurs le peuple italien, ni personne, hein, sauf eux. Et donc ils disent, non, maintenant il y a deux papes, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Il y en a un qui est légitime, l'autre qui ne l'est pas. Voilà, ben on essaye de s'arranger, mais on n'y arrive pas évidemment. Et pendant 30 ans, il y a en parallèle deux papes. Parce que bien sûr, à la mort de l'un, eh bien, on élit un autre, mais des deux côtés. Hein? Donc après Urbain VI, nous avons Boniface IX, puis Innocent VII, puis Grégoire XII, dans la lignée de la légitimité romaine. Et bien sûr, de l'autre côté, celui qui a été élu à la place de celui qui était soi-disant fou, ben, il continue lui aussi à jouer au pape, hein. Et Benoît XIII à sa mort est élu, etc. Puis il y aura Clément VIII plus tard. Voilà, donc chaque généalogie se développe pendant 30 ans. Alors après une trentaine d'années, les cardinaux se disent, bon ben non, mais bon, on a peut-être fait une bêtise, bon d'accord, mais maintenant on va résoudre le problème. On va résoudre le problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va se réunir à Pise, hein, on va déposer les deux papes et élire un troisième qui remplacera les deux autres. Mais ça ne fait qu'empirer les choses, évidemment. Parce que exactement ce qu'ils ont fait une fois, ils le recommencent une seconde fois. Mais évidemment, cette fois-ci, ce n'est plus le même collège de cardinaux, c'est un autre groupe, puisque c'est 30 ans après. Et voilà, donc, un groupe de cardinaux se réunit à Pise et disent, bon, c'est quand même un très grand problème, alors nous sommes bien d'accord qu'il faut qu'un pape, eh bien, on va élire un pape, et les deux autres, ben, on va les supprimer, on va les déposer. Donc, on dépose les deux autres papes, et on élit un troisième, Alexandre V, en 1409. Vous voyez là, hein, où on en est, en 1409. Mais il n'y a rien à faire, aucun des deux autres n'admet d'être déposé. Bientôt, Alexandre V a un successeur, Jean XXIII. Alors c'est pour ça que pendant si longtemps, on n'a plus de Jean XXIII, parce que évidemment, c'était le troisième pape, hein, pas du tout légitime, hein, deux fois illégitime même, je dirais. Donc voilà, Jean XXIII a eu du courage à reprendre ce titre. Hein. Pardon ? Oui, c'est étonnant. Oui. Lui a voulu le faire. Hein. Lui a voulu le faire. Oui. Oui, parce que sinon, le nom de Jean alors était banni à tout jamais, quoi. Ou bien alors il fallait sauter un chiffre, je ne sais pas quoi, mais bon, en tout cas. Ouais. Donc maintenant, on a trois papes. Donc on sait encore moins s'en sortir qu'auparavant. Mais alors justement, c'est l'empereur allemand, Sigismond, qui décide de convoquer un concile. Lui, de sa propre autorité terrestre, il dit « je dois résoudre le problème de ces spirituels hein, qui se battent, et moi je vais convoquer un concile ». Mais lui, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de convoquer un concile. Mais par parenthèse, quand même, le concile de Nicée, le concile de Constantinople ont été convoqués par des empereurs romains. Mais à l'époque, il y avait un beaucoup plus grand mélange entre les deux. Donc l'empereur Sigismond, qui, Édouard R. nous le rappelait toujours, est né au Luxembourg, hein, l'empereur Sigismond a décidé de convoquer un concile, ça veut dire des évêques, non plus des cardinaux, mais des évêques. Alors, il n'avait pas le droit de le faire, et normalement, un concile est convoqué par le pape. Et par lequel ? Bon. En tout cas, voilà, il va encore falloir quelques années pour vraiment résoudre le problème. En 1413, l'empereur convoque un concile, et un des trois papes le confirme. Il dit, voilà, ça c'est une bonne idée, moi je convoque aussi le concile, le même évidemment, heureusement. De son côté, Grégoire XII, ça veut dire le pape, semble-t-il, le plus légitime hein, de la légitimité romaine, dit, eh bien, moi aussi je le convoque. Et non seulement je le convoque, mais lorsqu'il sera convoqué, j'abdiquerai. J'abdiquerai au profit de celui qu'on va nommer, hein, à ma place. Et à la place de l'autre, j'espère qu'il ne va pas l'autre faire le coup de vouloir rester. Hein. Mais puisqu'il a accepté de convoquer le concile que l'empereur. Bon, voilà déjà deux papes qui sont d'accord de suivre l'avis de l'empereur. Vous voyez les rapports Église-État. Ici, c'est l'État, si on veut, qui a sauvé un peu la mise. Alors, tout ça, ça prend du temps. 1415, Grégoire XII donc reconvoque ce concile, puis abdique, et Jean XXIII consent aussi à être déposé. Donc il y a déjà deux papes qui sont d'accord de se mettre sur le côté pour qu'on en nomme un vrai. Alors ils ne sont pas donc mis sur le côté d'autorité par je ne sais pas qui, c'est eux-mêmes qui trouvent que c'est ça qu'ils doivent faire, par humilité et surtout pour trouver une solution au problème. Et alors voilà, encore 4 ans après la convocation par l'empereur en 1417, il y a finalement le concile de Constance, qui est vraiment convoqué par un pape, même par deux, donc c'est un vrai concile, et qui va faire le boulot du conclave, c'est pas tout à fait normal, mais enfin il va le faire, et ils vont nommer Martin V. Et donc voilà au moins deux légitimités, celle de Rome et celle de Pise, qui sont d'accord sur un pape, Martin V. Mais les Avignonnais ne sont toujours pas d'accord. Hein. Ils persistent. À la mort de leur pape, ils en nomment encore un autre. Mais celui-là, eh bien, règne quelques années et puis il abdique lui-même au profit de Martin V, qui semble être vraiment l'homme de la situation. Et donc voilà comment, hein, eh bien, comment on a retrouvé un seul pape, et c'est Martin V. Martin V, il y a un lycée là à Louvain-la-Neuve qui s'appelle le lycée Martin V parce que c'est lui qui a fondé des choses à l'intérieur de l'université de Louvain. Voilà, vous voyez donc ici comment au fond l'Église avec les cardinaux ben, se sont mis dans un grand problème à cause d'erreurs et d'entêtement, etc. Et c'est finalement l'empereur qui a sauvé la situation. Pas tout seul, mais quand même. Et je trouve que là, c'est quand même intéressant à remarquer. Le temps de la réforme. Alors évidemment, toutes ces aventures hein, du pape à Avignon pendant 70 ans, et puis de 40 ans de deux papes et de trois papes, ça fait plus d'un siècle, hein, plus d'un siècle où la papauté a été mise à mal. Hein. Tout ça, évidemment, a laissé des traces d'amertume dans la conscience chrétienne, qui dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est cette hiérarchie de l'Église, hein, qu'est-ce qu'il fabrique, bon, où est-ce qu'on en est, etc. Et ça se traduit dans un désir de réforme de l'Église. Alors bien sûr, on connaît la réforme qui a réussi, si j'ose dire, celle de Luther, hein, Mais il y a eu plusieurs mouvements de réforme avant Luther. Plusieurs grands mouvements de réforme ont précédé. Et je vous note très rapidement ce qui s'est passé en France, en Allemagne et en Angleterre. En France, eh bien, il y a un concordat en 1516 entre le pape Léon X et le roi François Ier. Mais c'est un concordat qui est fort, je dirais, à l'avantage du roi. Parce que le roi se revendique déjà beaucoup de choses vis-à-vis de l'Église, puisqu'il se fait reconnaître la faculté de nommer les évêques. Le roi français lui-même, hein, c'est lui qui va nommer les évêques. On verra avec Napoléon comment tout ça va se passer aussi. Hein. Et le pape est seulement invité à lui donner l'investiture canonique. Donc la fonction plus administrative, terrestre, etc. de l'évêque, c'est le roi qui décide de la donner à quelqu'un. Et puis le pape est invité à donner sa bénédiction. Aujourd'hui, vous savez que bon, c'est très différent. Hein. Il y a des États aussi qui n'admettent pas les évêques que nomme le pape, ou bien des États qui ont un espèce d'accord de savoir avant le public hein, qui sera nommé évêque et qui peut faire une certaine objection dans certains cas, etc. Enfin, ça, c'est les concordats de l'actualité. Mais François Ier, donc, s'arroge le droit de nommer les évêques. Mais il est encore chrétien, François Ier. Hein. Il est chrétien, la France est chrétienne, le roi est chrétien, et c'est vrai que le catholicisme est la religion d'État, parce qu'elle est la religion du roi et la religion de la France. Avec la réforme, comme vous savez, ben, puisque l'État français, la France est un pays catholique, l'arrivée des protestants va provoquer beaucoup de remous. La nuit de la Saint-Barthélemy, il va y avoir un massacre, comme vous savez. Il y aura un édit de tolérance religieuse, l'édit de Nantes, qui malheureusement sera révoqué par Louis XIV moins d'un siècle après. Donc il va y avoir des tensions en France entre les catholiques hein, de souche et les protestants qui suivent la réforme de Luther, etc., ou de Calvin. En Allemagne, ben, on comprend pourquoi Luther avait tant d'animosité contre le pape, etc., parce que pour lui, tout ça, c'était de l'histoire relativement récente, hein, ce que je viens de vous raconter. Donc pour lui, le pape, ben, c'était ces histoires-là. Mais très rapidement, la réforme religieuse lancée par Luther prend aussi un tour politique, parce qu'il y avait des révoltes, et notamment la révolte des paysans en 1525, qui a été réprimé dans le sang par les princes. Et là, eh bien, Luther a lâché les paysans. Hein, il ne les a pas aidés alors qu'il y avait une certaine promesse. Mais finalement, ça se règle avec la paix d'Augsbourg, qui se résume dans cette formule « cuius regio, eius religio ». Il y avait donc des Länder, hein, et les princes avaient leur territoire, eh bien c'est finalement la religion du prince que tout le territoire devait accepter. Pour telle région, telle religion, hein, cuius regio, eius religio, dans telle région, le roi, eh bien, ou le prince, etc., avait choisi d'être dans la ligne de la réforme avec Luther, eh bien tout le monde devait accepter cela. Ou bien rester catholique, tout le monde devait être catholique. Alors il y a des diocèses comme ça qui ont changé de religion, je ne sais pas combien de fois sur un siècle, parce que les princes se succédaient, et puis l'un était catholique, l'autre protestant, l'un catholique, l'autre protestant, etc. Bon. En Angleterre, eh bien, nous avons Henri VIII qui, en raison de son divorce, se sépare de l'Église de Rome, mais qui surtout promulgue l'acte de suprématie par lequel le clergé doit se soumettre au roi. Tout le clergé catholique romain de l'époque hein, doit faire acte d'allégeance au roi plutôt qu'au pape. Et donc, ça crée une église d'État. Hein. L'anglicanisme est une église d'État. C'est la religion de l'État. Et pratiquement, l'Angleterre est le seul et le dernier pays occidental où il y a une religion d'État. Hein. Il y a encore Monaco, Saint-Marin, etc. Mais en Italie, en Espagne, c'était la religion catholique aussi, une religion d'État pendant très très longtemps, mais tout ça a également disparu, mais très récemment. Eh bien, en Angleterre, l'anglicanisme est encore la religion d'État. Ce n'est pas le cas avec les anglicans des autres pays, hein. Mais donc, ils doivent toujours faire allégeance à la reine d'Angleterre, c'est elle qui est la chef de l'Église anglicane. Les catholiques sont donc bannis, ou sont persécutés, ou sont mis sur la touche, etc. Et vous savez que l'édit de tolérance vis-à-vis des catholiques, quand est-ce qu'il est arrivé? Donc en 1531, l'acte de suprématie du roi, ce n'est que 3 siècles plus tard qu'il y a eu un acte de tolérance vis-à-vis des catholiques, en 1829. En 1829, l'Angleterre a décidé de ne plus faire de différence, de discrimination entre les anglicans et les catholiques. C'est absolument incroyable, hein? 3 siècles d'intolérance, et alors c'était une intolérance assez sérieuse, hein? Donc pas d'accès à certains postes universitaires, administratifs, etc. Donc c'était un Brexit déjà assez réussi, hein, en 1531, et qui a quand même duré 3 siècles, hein, vis-à-vis de l'Église catholique. Voilà, je vous remercie, j'espère que toutes ces données ne sont pas trop abondantes, mais ça vous dessine quand même une ligne, hein, où vous voyez qu'il y a toujours un peu un bras de fer entre ces deux pouvoirs qui doivent se mettre d'accord. Hein. Et chacun est d'accord pour dire qu'il faut un équilibre, mais chacun voudrait quand même un peu pencher la balance, hein, de son côté.